leur temps universel, le PSG qui joue contre l'équipe de Reims.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes témoins et acteurs de l'histoire. La Marche du Monde, enregistrée à Clermont-Ferrand au Festival international du court-métrage, pour vous faire partager la séance cours d'histoire que nous accompagnons depuis sa création il y a 7 ans. Des films d'archives, mais aussi de fiction pour s'interroger sur la façon dont le cinéma représente les événements marquants de notre histoire. Après la guerre d'Algérie ou la libération de Paris, Georges Bollon, cofondateur du Festival du court-métrage, a choisi cette année l'Indochine.
Merci d'être venus si nombreux à cette séance courte d'histoire. Alors, cette 7e édition, elle est consacrée à la guerre d'Indochine. Alors, je précise bien, comme on avait fait pour la guerre d'Algérie, que ce n'est pas un débat sur la guerre d'Indochine. C'est comment le cinéma, le court-métrage en particulier, s'est approprié la guerre d'Indochine. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous avons invité Delphine Robic-Diaz, la spécialiste du cinéma colonial et en particulier spécialiste des rapports entre l'Indochine et le cinéma, long métrage et court métrage. Alors, Delphine est maître de conférence en études cinématographiques à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Elle est spécialiste du cinéma de guerre et des représentations coloniales et postcoloniales. Elle a été commissaire de l'exposition Indochine, des territoires et des hommes au musée de l'armée et membre du comité scientifique du centenaire de l'ECPAD. C'est l'armée. Donc, on va voir 4 films, 2 films de l'ECPAD. Le 53 et 54, et puis ça c'est nouveau, 2 animations récentes qui ont été fabriquées d'ailleurs par la même maison de production tout à fait dynamique qui est en Bretagne, qui s'appelle Vivant Lundi. Et ces 2 films, Delphine nous expliquera quel point de vue il donne justement, autre sur l'Indochine et sur la guerre d'Indochine. Et je voudrais aussi remercier Radio France Internationale et Valérie Nivelon qui nous suit régulièrement dans cette séance et qui est à nouveau présente. Et qui, l'émission aura lieu quand, Valérie ?
Elle a lieu tout de suite, Georges. Alors merci pour cette présentation, Georges Bollon, et merci de nous accueillir pour la 7e année consécutive à Clermont-Ferrand pour ce festival du court-métrage qui est quand même une grande fête populaire, je tiens à le souligner, une grande fête populaire du 7e art. Vous faites quand même entre 130 000 et 150 000 entrées chaque année. C'est impressionnant de voir les gens venus de toute la France et du monde entier d'ailleurs faire la queue devant les salles de cinéma partout dans la ville. Alors y compris pour votre séance, cours d'histoire consacrée à l'Indochine, une guerre presque effacée de notre mémoire collective. Comment vous expliquez-vous le succès de cette séance, cours d'histoire, qui se confirme au fil des années ?
Alors, il y a une curiosité quand même par rapport à l'articulation. Le cinéma, c'est populaire, mais l'histoire aussi est très populaire maintenant. Je veux dire, il y a quand même on voit les émissions historiques, la télévision, la radio, tout ça, ont quand même une audience qui, en général, se maintient, voire se développe. Et puis, il y a une curiosité aussi qui est peut-être très liée au festival par lui-même, c'est-à-dire le travail sur l'image, l'éducation à l'image qu'on fait tout au long de l'année avec différentes structures, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit des centres d'apprentissage, des interventions qu'on fait en prison, dans les hôpitaux, etc. Alors, il se trouve qu'effectivement, la séance cours d'histoire, par contre, c'est souvent un public qui est un peu plus âgé que ceux qu'on touche pendant l'année. Il y a quand même quelque chose qui se maintient, qui s'inscrit dans la durée du point de vue de l'éducation à l'image, et donc, cours d'histoire s'inscrit aussi complètement dans cette démarche.
Alors, un sujet peu présent sur les écrans, Delphine Robic-Diaz, et si le cinéma donne sa vision de l'histoire, vous montrez que depuis près d'un demi-siècle, la guerre d'Indochine hante au fond le cinéma français sans jamais vraiment l'aborder.
Oui, c'est un peu le fil rouge de toutes les recherches que j'ai pu mener sur les représentations de la guerre d'Indochine dans le cinéma français. C'est cet effet un peu spectral. Je compare aussi volontiers la guerre d'Indochine au père dans Hamlet, c'est-à-dire que c'est le fantôme du père, c'est cette antériorité d'une guerre de décolonisation qui vient par la suite hanter d'autres conflits que la France a pu traverser. Donc voilà, donc je compare en général la guerre d'Algérie à Hamlet, et puis la guerre d'Indochine, c'est le père, c'est ce spectre, c'est ce fantôme qui vient hanter par la suite l'histoire de France, dont on ne parle jamais véritablement, mais dont on n'arrive jamais à se débarrasser.
Alors vous avez pu trouver bien sûr des images, Georges Bollon l'a souligné dans sa présentation à l'ECPAD, hein, c'est donc l'ancien cinéma des armées. Et on écoute tout de suite un premier extrait d'un film d'instruction destiné aux soldats avant leur départ pour l'Indochine.
Je suis arrivé en Indochine, je commandais un poste comme tant d'autres. Quand le 16 mai 1953, j'ai été attaqué par deux bataillons Viet. Après 48 heures de combats ininterrompus, nous avons été dégagés. Nos pertes ont été lourdes, celles de l'ennemi bien supérieures. Nous n'avons fait que notre devoir, et mon histoire peut être un jour la vôtre. Dans un poste bétonné du Tonkin, ou dans un poste plus petit, mais puissant.
Tenir les postes installés au milieu de la population du Vietnam du Sud, c'est la mission essentielle des soldats français en Indochine.
Au moindre bruit suspect, vous déclencherez les porujeri. Vos grenades éclairantes, piégées, explosent. Vous enverrez des fusées grande puissance et le Viet sera de la sorte bien reçu.
Ça canarde sec, on est bien dans un film d'instruction des années 50. Quelle vision, Delphine Robic-Diaz, le poste propose-t-il aux jeunes qui s'engagent dans l'armée pour combattre dans cette Indochine lointaine?
Alors il faut vraiment bien comprendre en effet que la différence de la guerre d'Indochine avec la guerre d'Algérie justement, c'est que c'est une guerre d'engagés, c'est une guerre de volontaires. Donc ce film d'instruction, il est vraiment à destination de jeunes hommes qui ont décidé de faire carrière dans le métier des armes. Donc à partir de là, c'est un film qui est plutôt à destination, normalement il aurait dû être à destination de jeunes officiers, mais il se trouve que sur la fin de la guerre d'Indochine, et là en l'occurrence on est en 1954 quand ce film-là est tourné et produit et qu'il est enfin diffusable, c'est un film qui s'adresse plutôt à des sous-officiers parce que voilà, dans les postes reculés d'Indochine, on n'a plus assez d'hommes pour venir encadrer les postes qui sont disséminés sur l'intégralité du territoire. Donc ce sont des jeunes sous-officiers à qui on va apprendre ce que normalement on apprend aux officiers en école militaire, donc on leur apprend les rudiments de ce que c'est que d'être un chef de poste. Et c'est là où on en comprend aussi une dimension humaine de la guerre d'Indochine qui est très importante, qui se met en place très tôt dans le contexte de la guerre. C'est ce qu'on appelle le jaunissement des troupes. C'est-à-dire que la guerre d'Indochine est une guerre qui a été menée par des troupes indochinoises, laotiennes, cambodgiennes, vietnamiennes, et dans lesquelles, en fin de compte, les Français ont été en minorité, et surtout dans des fonctions d'encadrement, plus que dans des fonctions véritablement de combat au front.
Alors cette Indochine, c'est la perle de l'empire colonial français, c'est une longue histoire d'amour aussi, une histoire d'amour et de haine, j'allais dire, parce que c'est une colonie d'exploitation à 10 000 km de Paris.
La pénétration française en Indochine est un fait d'histoire, vieux de deux siècles. Et aujourd'hui, des Vietnamiens rappellent qu'il y a près de 200 ans, des Français aidèrent le Vietnam à retrouver son unité. Au début du 19e siècle, ces Français seront persécutés. Alors, à la suite du Second Empire, la Troisième République étendra la protection française à tous les pays d'Indochine. Au début du 20e siècle, les combats éteints, commença de régner sur l'Indochine ce qu'on peut bien appeler la paix française.
Problème d'Extrême-Orient numéro 1, j'avoue que je suis assez fascinée par le titre de ce court-métrage, donc issu des collections de l'ECPAD, l'ancien service cinéma des armées. Alors là, c'est pas un film d'instruction militaire à proprement parler, à qui s'adresse-t-il et quel visage justement de l'Indochine donne-t-il?
Alors c'est un magazine en fait, c'est un magazine militaire qui est à diffusion privée du sérail militaire, mais qui a pu avoir aussi un certain un écho auprès d'un public beaucoup plus large. Donc c'est un film qui a pu être vu par un public à l'époque, en 1953, et c'est donc un film qui renseigne sur ce qui se passe en Indochine, mais pas ce qui se passe véritablement au moment T, 1953 où le film sort sur les écrans, mais qui fait une sorte de rétrospective de l'histoire de l'Indochine, de l'histoire de la France en Indochine essentiellement, pour bien prouver que la France a quelque chose à faire en Indochine, que la France prouve son intérêt pour le pays, puisqu'il y a une dimension culturelle qui est mise en valeur en permanence. Il ne s'agit pas d'écraser une culture et de coloniser en écrasant les populations locales, mais véritablement de mettre en valeur ce qu'il y a de positif localement par une politique, encore une fois, de protection, puisque c'est l'un des autres mots que scande le film Problème d'Extrême-Orient numéro 1.
Ces 50 ans de paix nous sont trop souvent présentés comme cette divinité avec deux visages, mais deux visages aussi dissemblables que possible. Tantôt c'est seulement le visage cruel du colonialisme, mais à lui seul, ce colonialisme eut-il construit tant d'œuvres gratuites, de ces œuvres que n'inspire aucun profit. Tantôt c'est seulement le visage angélique de la philanthropie qu'on nous propose, mais à elle seule, la philanthropie eut-elle multiplié tant d'initiatives, tant d'entreprises utiles. La définition exacte de cette pénétration se situe entre l'exploitation et la charité. Elle était fondée par les faits sur une très simple notion, moins barbare et moins noble à la fois, l'échange. Cette notion d'échange, elle surgit partout où se rencontrent les deux civilisations.
L'art du commentaire dans le film de propagande, hein. C'est un bon exemple, Delphine Robic-Diaz. On sait à quel point c'est la narration, hein, finalement, qui donne justement la lecture du film pour le téléspectateur, et à quel point le message est porté par le commentaire qui fait dire au fond aux images ce qu'on souhaite. Et là, on entend bien cette présentation de la colonisation au fond comme un échange. Ce serait un échange gagnant-gagnant entre cette France qui vient apporter sa mission civilisatrice donc dans cette contrée lointaine, et puis ce peuple vietnamien qui serait resté figé et qui enfin va pouvoir bouger avec cette impulsion occidentale pour l'amener sur les rails du progrès. Le choix des mots est extrêmement important.
Oui, et en fait, encore une fois, on est dans un film qui est très tardif. Là, on est en 53. Donc, l'apologie, la propagande, la promotion que fait ce film, c'est la promotion de la Fédération indochinoise. C'est-à-dire de cette union des territoires à la manière d'un Commonwealth à la française. Donc c'est pour ça que ce discours est aussi positif, est aussi valorisateur de l'action française. C'est ce dont il est question, c'est de montrer à quel point la France est nécessaire dans ces pays en tant que force d'union, de manière à fédérer, encore une fois, les territoires du Vietnam, du Cambodge et du Laos.
Et Georges Bolon, ça nous permet aussi de voir à l'écran des images de cette Indochine, dont on a très peu de représentations, à travers notamment les bâtiments construits par les Français. Qu'avez-vous retenu, justement, de cette vision, de ces images, de ce passé indochinois, de ce passé colonial ?
Alors, moi, je suis dans une position un peu particulière par rapport à ça, parce que j'habite dans une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand, où l'entreprise dominante s'appelle Michelin, et Michelin fait une partie de sa fortune sur l'EVA, sur les caoutchoucs, sur les plantations d'EVA. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé ici à Clermont-Ferrand sur ces plantations, enfin, d'un point de vue historique, je parle, hein. Et bon, il y a même un rapport d'un gouverneur général de l'Indochine qui, à l'époque, décrivait une situation qui était assez parallèle avec ce qui se passait ici, c'est-à-dire un paternalisme assumé, avec des petites maisons, avec un hôpital, etc., qui assurait un certain bien-être aux ce qu'on appelait les coulis, hein, les coulis, donc ceux qui saignaient les arbres, hein. Et en même temps, une surexploitation. Et ce gouverneur dénonçait à la fois cette surexploitation qui était très associée au paternalisme. Et donc voilà, Clermont-Ferrand est complètement lié à l'histoire de l'Indochine et à l'histoire du Vietnam et de la guerre, de la première guerre d'Indochine, même de la guerre par la suite, puisque Michelin a conservé des plantations, y compris jusqu'à la fin du régime sud-vietnamien soutenu par les Américains. Et je crois même qu'il a signé, alors après c'est un peu plus ambigu, des accords après avec les nouvelles autorités. Voilà, donc on est complètement dans cette histoire-là. Par ailleurs, le fondateur du journal La Montagne, Alexandre Varenne, a été gouverneur d'Indochine. Alors, je ne sais plus les dates exactes, je crois que c'est fin des années 20 ou début des années 30. Enfin bon, voilà, on est lié, Clermont-Ferrand est lié à cette histoire.
Et ce n'est pas tout, Delphine Robic-Diaz, puisque le plus célèbre des chefs opérateurs militaires qui a tourné en Indochine n'est autre que Pierre Schoendorfer, qui a également une histoire avec la région où nous nous trouvons, donc l'Auvergne.
Oui, il est né à Chamalières, mais il est né de manière fortuite à Chamalières. Il est alsacien, mais voilà, il est né à Chamalières et il a toujours fait une petite fierté. Enfin, c'est quelque chose dont il a jamais cherché à taire l'existence. Il a toujours revendiqué d'être né à Chamalières, bien qu'alsacien.
Et Pierre Schoendorfer fait donc partie des chefs opérateurs qui ont tourné ce film, Problème d'Extrême-Orient numéro 1, dont on entend le dernier extrait.
Les nations indochinoises ne pouvaient échapper à cette loi du siècle, mais elles avaient à choisir entre une méthode fondée sur la loi du plus fort, celle que le Viet Minh a choisie, lui, dont le sort dépend de l'immense Chine totalitaire, et une méthode fondée sur l'association, celle que leur propose l'Union française dans sa diversité et sa puissance, celle que des Vietnamiens, des Laotiens et des Cambodgiens ont déjà choisie et pour laquelle ils votent, travaillent et se battent. Ces hommes ont compris que l'Union française leur proposait une forme de civilisation qui refuse de sacrifier la liberté de penser à une exclusive vision matérialiste et qui veut au contraire concilier l'individuel et le social.
Le commentaire, l'inénarrable commentaire de ce film Problème d'Extrême-Orient numéro 1 positionne la France dans un conflit idéologique au fond, Delphine Robic-Diaz, qui est celui de la guerre froide.
Oui, la guerre d'Indochine est une guerre qui a commencé comme un ersatz de Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée de Leclerc et qui finit comme un véritable conflit de guerre froide avec une opposition nette des blocs qui se joue autour de la frontière qui va se dessiner par la suite au niveau du 17e parallèle entre le nord et le sud du Vietnam.
Donc une guerre au fond qui est prise en tenaille entre deux autres. Est-ce que ça participe à l'effacement de la mémoire de cette guerre?
Très certainement. Je pense en effet que, étant donné que la France a été touchée sur son territoire par la Seconde Guerre mondiale et sur son territoire aussi, puisque l'Algérie était française et était composée de 3 départements français au moment de la guerre de décolonisation, ces deux conflits-là ont forcément été beaucoup plus présents dans les esprits des Français et ont été beaucoup plus présents dans la chair des Français que l'Indochine, qui était encore une fois exilée à l'autre bout du monde avec un nombre de colons qui est extrêmement limité par rapport à l'Algérie.
Et pourtant, cette guerre d'Indochine a commencé en 1945 avec l'arrivée des soldats et des troupes coloniales menées par le célèbre général Leclerc.
L'accueil réservé aux troupes françaises traduit sans équivoque l'immense soulagement de la population. Deux jours plus tard, le général Leclerc atterrit sur le terrain de Tan Son Nhut, où l'accueille le major-général Gracie, commandant la 20e division hindoue, et le colonel Sidi, sous-délégué du haut-commissaire pour la Cochinchine. Le général descend de voiture pour prendre contact avec ces Français qui brûlent de le connaître. Malgré la pluie torrentielle, une foule énorme l'attend, et ce geste spontané du chef soulève un enthousiasme délirant. Devant le palais du gouvernement, les honneurs sont rendus par les marins du commando aéronaval et par un détachement de parachutistes qui les premiers atterrirent en Indochine. Le lendemain, tout Saigon est venu écouter le général qui déclare « Les problèmes qui restent à résoudre seront résolus, je vous l'affirme. Nous avons célébré la victoire à Paris, à Strasbourg et à Berchtesgaden. Nous la célébrerons aussi à Saigon et à Hanoï. »
Extraordinaire document, Delphine Robic-Diaz, c'est une archive d'actualité de 1945. La France présente la reconquête de l'Indochine comme la libération de l'Indochine. Alors, on ne va pas faire d'anachronisme, enfin quand même, c'est une façon de tordre l'histoire qui est assez impressionnante.
Oui, il y a vraiment un parallèle flagrant fait dans les actualités françaises de l'époque pour montrer justement que la France est un territoire qui s'étale aux quatre coins du monde, un territoire ultramarin aussi capital à libérer que le territoire métropolitain. Donc le général Leclerc, après avoir libéré la France avec la 2e DB, vient libérer de l'occupation nippone l'Indochine en 1945.
« Spectral Indochine, c'est la guerre d'Indochine au cinéma et c'est ici au Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand. Après les soldats et la guerre, nous allons parler des civils et de leurs amours. Suite de la séance, juste après le journal parlé sur RFI.
France de Ligue 1 qui continue avec le face-à-face entre le Paris Saint-Germain et Reims. L'horaire précis, c'est 16h temps universel.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde enregistrée au Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, nous avons le plaisir de vous faire partager notre séance préférée. Elle s'intitule Cours d'Histoire et elle est consacrée cette année à l'Indochine.
La guerre sévit dans la brousse, mais dans les villes, là où les deux civilisations sont étroitement associées, la paix règne, manifestant mieux que tout autre argument la réalité de l'Union française. C'est dans la paix que les peuples de l'Union française pourront mettre en valeur leurs richesses. C'est dans l'union qu'ils pourront fortifier leur indépendance et leur liberté.
Alors parlons des peuples, justement, Delphine Robic-Diaz. En Indochine, il y a bien sûr les soldats, mais ce ne sont pas les seuls Français présents. Alors qui sont ceux qui se rencontrent, qui sont ces peuples qui se rencontrent en Indochine?
Alors ces Français qui représentent la France en Indochine sont en effet essentiellement du personnel administratif, des militaires. On a tous en tête Marguerite Duras, dont les parents sont partis pour être instituteurs en Indochine, dans le sud, dans le delta du Mékong. Donc voilà, c'est le genre de personnalité. Alors il y a toute une campagne de propagande, on le voit encore avec problème d'Extrême-Orient numéro 1, pour encourager, inciter les Français à s'installer dans ces colonies où tout d'un coup un Eldorado leur est supposément offert. C'est ce qui a pu, par exemple, attirer les parents de Marguerite Duras et pour finalement découvrir que la misère était tout à fait la même à l'autre bout du monde qu'en France, sauf qu'on est blanc et en étant blanc, on a forcément un statut privilégié par rapport aux autochtones, aux indigènes, comme on disait alors. Donc voilà, cette rencontre se fait de manière assez hiérarchisée avec les blancs qui forcément sont dans des positions de supériorité, qui supervisent, qui encadrent, qui forment les indigènes, comme on disait encore une fois à l'époque, les populations locales, à différents métiers. Le but étant systématiquement, encore une fois dans le cadre de cette union indochinoise, de promouvoir des élites. Donc il va y avoir un Saint-Cyr par exemple, vietnamien, pour promouvoir des élites militaires qui progressivement devaient prendre le relais des forces d'encadrement françaises militaires. Il y a aussi des élites dans le domaine médical, dans le domaine diplomatique. Les Français forment ces élites pour qu'elles soient francophones et francophiles et qu'elles puissent continuer à promouvoir la présence française. Encore une fois, le principe, c'était celui d'un Commonwealth à la française.
Georges Bollon, vous qui êtes un amoureux du cinéma, un cinéphile et un spécialiste, un fondateur ici du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, vous direz de façon générale, quelle image on peut avoir justement de ces Indochinois au cinéma? Parce que autant pour l'Algérie on a énormément d'images, autant pour l'Indochine on a l'impression qu'on est plutôt dans une image fantasmée.
Oui, c'est bien d'utiliser le terme image fantasmée parce que je crois que c'est aussi une de... Enfin moi, le peu que j'ai pu travailler sur cette période et sur cette problématique, je me suis aperçu de l'importance absolue du rapport homme-femme. Alors sachant bon, que les femmes c'était les Vietnamiennes et les hommes c'était les Français. Et ça, c'est, j'ai l'impression que c'est tout à fait fondamental dans cette histoire. Alors c'est peut-être pas très mis en avant, peut-être pas complètement étalé, mais il y a quelque chose de très structurant de ce côté-là.
Et d'où l'intérêt cette année de ne pas présenter uniquement des images d'archives à travers ces films militaires, mais aussi d'ouvrir la séance du cinéma d'animation.
Absolument, avec deux films d'animation, donc Son Indochine et Sous tes doigts. Je dois dire que moi j'étais un peu réticent au départ là-dessus, que j'étais resté quand même tout à fait sur le côté cinéma d'archives, noir et blanc, etc. Et c'est Delphine Robic-Diaz qui m'a dit non, il faut à tout prix passer ces deux films parce qu'ils sont révélateurs justement d'une autre période et d'une autre façon d'aborder ce sujet. C'est-à-dire qu'on prend compte ce sujet d'une autre façon que ces documents noir et blanc issus de l'armée ou d'autres qui présentent une autre période. Et c'est tout à fait intéressant. Et le contrepoint entre ces deux films d'un côté, des archives et deux films récents, en plus des animations, était tout à fait fondamental, je crois, et très structurant de la séance.
Alors on est effectivement cette fois dans l'intime de la guerre. On a vu à quel point l'émotion avait pu submerger la salle, puisque cette guerre d'Indochine, elle a laissé un traumatisme profond dans cette mémoire collective, un traumatisme qui est tu, qui n'est pas exprimé, qui est peu représenté, on l'a compris. Un traumatisme évoqué avec beaucoup de finesse et d'humanité par le court-métrage d'animation de Bruno Collet, intitulé « Son Indochine ». Pour les 80 ans d'Émile, toute la famille est réunie et au moment des cadeaux, sa petite fille a choisi une très jolie sauterelle en céramique.
Bon anniversaire, papy.
Merci, Suzy.
Oh non, papy, ouvre-le.
Ben c'est vrai, ouvre-le.
Ces bestioles.
Oh, s'il te plaît, pas aujourd'hui.
Mais papy, c'est quoi l'Indochine ?
C'est quoi l'Indochine ? Demande la petite fille à son grand-père, après que le grand-père ait fracassé ce cadeau qui représentait une sauterelle. Alors là, il nous faut une explication, Delphine Rubic-Diaz.
Ce qui est très intéressant, c'est cette métaphore animalière que va utiliser le film pour représenter le Viet Minh, tout d'un coup utiliser cette sauterelle. Cette sauterelle, c'est pas une représentation franco-française, c'est une représentation qu'a retrouvée Jean-François Lecor, le producteur et scénariste du film, dans un rapport politique au 2e congrès national du Parti des travailleurs du Vietnam, donc quelque chose de très officiel, un discours fait par Ho Chi Minh en février 51, dans lequel Ho Chi Minh dit « Aujourd'hui, c'est bien la sauterelle qui se mesure avec l'éléphant, demain l'éléphant il laissera sa peau. » Donc déjà Ho Chi Minh représente cette force d'action du Viet Minh sous la métaphore animalière de la sauterelle, et c'est cette sauterelle qu'a réutilisé Jean-François Lecor pour représenter le conflit, sachant qu'avec le réalisateur Bruno Collet, ce qu'il voulait faire c'est un film de guerre sans une goutte de sang.
Alors pour continuer sur ce thème du silence, je vous propose de découvrir un film documentaire de Marie-Christine Courtès. C'est Le Camp des Oubliés, un film tourné en 2004 et c'est le bonus offert par la Marche du Monde pour ce cours d'histoire ici à Clermont-Ferrand.
Maintenant, nous, on ne veut plus quitter ce camp. Ça fait presque 50 ans qu'on est là.
Ma mère non plus ne veut pas partir. Et mon père, il disait qu'il préférait mourir ici. Il ne voulait pas aller ailleurs.
Nous sommes au camp de Sainte-Livrade, dans le sud-ouest de la France. C'est là que la réalisatrice Marie-Christine Courtès a filmé les femmes indochinoises rapatriées après la fin de la guerre, suite à la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu.
Quand je suis partie, je savais que je ne retournerais jamais là-bas. C'était vraiment dur. Je partais, mais je ne savais pas où j'allais. Je quittais le Vietnam, point c'est tout. Je partais avec mes trois enfants. Je ne savais pas comment on allait pouvoir survivre. Je ne me posais qu'une seule question. Qu'est-ce qu'on va devenir ? On pensait tous la même chose au moment du départ.
Si ces Indochinois se retrouvent dans le camp de Sainte-Livrade, c'est parce que 2 ans après l'indépendance du Vietnam et la défaite de Dien Bien Phu, ils n'ont pas vraiment leur place dans la République du Sud-Vietnam et sous le régime du président Diem, parce qu'elles sont soit des compagnes de Français, donc de l'ancienne puissance coloniale, soit métisses et donc issues de parents français, de pères français en l'occurrence, soit ce sont des hommes qui se sont battus aux côtés des Français pendant la guerre d'Indochine. Elles sont pas non plus extrêmement bien accueillies en France parce que c'est un peu l'incarnation de la défaite française. Et on est aussi en 56, au début de la guerre d'Algérie, enfin de ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie, mais donc dans un contexte de décolonisation qui est pas très favorable à leur arrivée en France. Et puis personne ne s'est vraiment intéressé à eux, ni les gens qui défendaient l'Indochine française, ni la gauche française qui aurait pu peut-être les soutenir, mais qui trouvaient en eux l'équivalent des harkis après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le camp dans le camp de la France et du mauvais côté pendant la guerre.
Les femmes indochinoises qui ont formé des couples mixtes avec les Français étaient du mauvais côté. Mais leurs enfants métis, où se situaient-ils dans un système colonial français qui distingue les Blancs des Annamites ?
En Indochine en particulier, les métis avaient une place très particulière dans la société très hiérarchisée de l'Indochine française. Il y avait donc les Français, les colons, les Vietnamiens, les indigènes, et au milieu ces métis qui n'appartenaient vraiment ni à un groupe ni à l'autre et qui ont été utilisés souvent soit par la police, soit par les services secrets, et qui donc avaient une image un peu négative, un peu floue, un peu de traître pour certains. Et donc même si ils avaient choisi de rester au Vietnam pour des raisons idéologiques, je pense qu'ils auraient été mal considérés.
J'ai écrit mes mémoires parce que j'ai peur que, avec le temps, le vieillissement, il y a des points que j'oublierai. Et mon père était Monsieur le jeune Georges, venu en Indochine en tant que magistrat, mais par la suite. Il est devenu planteur. Ma mère était princesse de la cour d'Annam, la petite fille de l'empereur Mingmen. Et ils ne sont jamais mariés parce que ma mère était une princesse et mariée avec un roturier, comme en Angleterre, ce n'est pas indiqué. Là, comme ils s'aimaient tous les deux, ben voilà, ils ont vécu ensemble et ils m'ont donné la vie. Ma famille était bien nantie. Ma mère possédait pas mal de biens, et puis mon père aussi, il avait des plantations de caféiers. J'avais mon cuisinier particulier, mes serveurs. À cette époque-là, ben, on vivait très bien. On n'avait pas de soucis, à part le travail à l'école. Et puis alors, notamment, jeune comme on était, ben, on aimait chahuter, quoi. Danser, chanter. Faire des pique-niques, hein, pendant les vacances, puis on allait à la plage. Ouais, c'était la belle vie, quoi.
Alors la plupart des personnes qui sont arrivées dans le camp en 56, arrivaient de grandes villes, la plupart de Hanoï, certains de Haiphong, une petite partie du sud de Saigon. Certaines femmes faisaient partie de la bourgeoisie vietnamienne et de par leur union avec des Français avaient acquis un statut social qui faisait qu'elles ne travaillaient pas, elles avaient des personnes pour les aider à la maison, donc certaines ne savaient même pas faire la cuisine.
Les femmes indochinoises du camp de Sainte-Livrade se retrouvent sans ressources avec une petite allocation de l'État français, mais ce n'est pas suffisant pour élever leurs enfants.
Dans ce camp vétuste, à l'écart du village, donc en pleine campagne, ils étaient plus d'un millier, où il n'y avait pas de travail, où il n'y avait aucun contact avec le monde extérieur. Ça a été extrêmement dur parce que ces femmes se sont retrouvées seules. Donc elles vont travailler au noir, ce qui est le plus simple, chez les paysans alentours qui vont les exploiter pendant des décennies dans les champs de haricots pour ramasser des fruits, des prunes. Et elles ne seront jamais déclarées. Elles n'auront jamais les moyens de sortir du camp et vraiment de s'intégrer dans la région ou ailleurs.
À chaque fois que je vois ce champ, je repense à l'époque où on ramassait les haricots verts. Tu te souviens, le matin, tout le monde faisait la queue devant le camp, avant qu'on vienne nous chercher pour aller au champ. On avait tout un chapeau conique et un tabouret, c'était vraiment pitoyable.
Je me souviens que ma mère, elle a failli accoucher dans le champ pour Sophie, ma petite sœur. Même enceinte de 9 mois, elle continuait de ramasser les haricots parce qu'on avait vraiment besoin d'argent.
Oui, c'était dur à cette époque-là. On ne savait pas quoi faire pour s'en sortir. Il y en a eu des larmes versées sur les plants de haricots. Mais c'est ce qui nous a permis d'élever nos enfants.
C'était la même chose chez nous. Ma grand-mère s'occupait des petits pendant que les grands allaient au champ. Nous, les petits, on écoutait des sacs de haricots à la maison. Mes grandes sœurs, quand elles allaient au champ, elles se mettaient en maillot de bain pour bronzer. Mais il n'y avait que le dos qui devenait noir. Le ventre restait tout blanc. Alors au moment de la pause, elles s'allongeaient au soleil pour faire bronzer leur ventre. Comme ça, à la rentrée, elles pouvaient raconter à leurs copines d'école qu'elles étaient parties en vacances au bord de la mer. En fait, on n'est jamais allé à la mer. Nous, on ne bronzait que dans les champs de haricots.
Quand elles sont arrivées en 1956, le camp est administré par du personnel issu de l'ex-administration coloniale. Donc, il y avait des barbelés, il y avait un portail à l'entrée, des gardes. Et donc, ils ont été mis à la fois sous tutelle au départ du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, puis d'une certaine manière infantilisés parce qu'ils n'avaient aucune indépendance et aucun moyen d'aller gagner leur vie à l'extérieur, de s'intégrer, de rencontrer des gens et de mener la vie qu'eux espéraient en arrivant en France.
Dans le film de Marie-Christine Courtès, Le camp des oubliés, on rencontre les enfants de ces femmes qui ont grandi. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils témoignent pour la première fois.
Alors, pour la deuxième génération qui est née dans le camp, c'était quelque chose de très douloureux parce que les mères sont parties, avaient un espoir de refaire leur vie en France qui n'est pas arrivé. Ensuite, elles se sont murées dans un espèce de silence que les enfants ont repris à leur compte. Et donc, à 18 ans, ils sont partis la plupart pour travailler à l'extérieur et ils ont un peu tiré un trait sur cette histoire. Et en même temps, elles leur ont pas raconté très peu la vie d'avant parce que c'était trop douloureux, parce qu'il y avait de la nostalgie. Et certains ne connaissent pas vraiment non plus l'histoire de leur père parce que les pères sont partis. Et donc pour ces jeunes de la deuxième génération, une fois qu'ils sont sortis du camp, beaucoup ont choisi de tirer un trait sur cette histoire et de ne plus en parler. Et en fait, les questions ont commencé à apparaître à la troisième génération. Comme dans beaucoup d'histoires familiales où il est plus facile d'interroger son grand-père ou sa grand-mère que ses propres parents.
Marie-Christine Courtès, réalisatrice du camp des oubliés. Alors cette guerre d'Indochine, ce sont des images manquantes, Delphine Rubic-Diaz. C'est aussi le silence, notamment le silence des femmes indochinoises, qu'on appelait les Kongai à l'époque. C'est aussi l'indicible de cette guerre qui est révélée petit à petit à travers la troisième génération, mais aussi à travers les films d'une jeune génération de réalisateurs qui n'a pas connu cette guerre d'Indochine.
Oui, les Kongai, ce sont pas tellement les femmes indochinoises, ce sont les compagnes de Français. C'est une légère nuance, mais qui compte quand même, ne sont pas considérées comme Kongai toutes les femmes indochinoises, seulement celles qui vivaient en concubinage, puisque les mariages étaient rarissimes, avec des Français. Donc ces femmes, elles ont été habituées à être considérées à la fois comme des autochtones et comme des femmes, donc double position minoritaire, qui fait qu'elles n'ont jamais eu droit à la parole. Comme vous l'entendez dans les différentes interviews, elles ne parlent toujours pas le français, elles l'ont pas appris à l'époque, elles ne l'ont pas appris depuis. Elles ont vécu en autarcie, dans ce camp, oublié du monde, oublié de la France, oublié de tout, sauf de leurs enfants, qui après se sont manifestés, ont milité, se sont engagés dans une lutte mémorielle pour que ces femmes ne soient pas oubliées, que l'histoire qui est la leur, celle de cette rencontre de la France avec l'Indochine, soit à nouveau dans les mémoires, parce que c'est une histoire commune qu'il ne faut pas, sur laquelle il ne faut pas tirer un trait, parce que voilà, toute une génération en est issue, et au-delà de cette génération issue de couples mixtes, ma génération est issue de cette histoire de France-là, parce que c'est notre France de maintenant qui est représentative de cette histoire.
Et cette histoire partagée, on l'évoque aussi dans le court-métrage que vous avez choisi et que j'aimerais que vous nous présentiez.
Sous tes doigts, de Marie-Christine Courtès, c'est un film d'animation. Le prétexte du film, c'est le décès de la grand-mère. Cette grand-mère qui a toujours vécu dans le silence sur son histoire. Sa petite fille qui est donc dans une forme de violence, d'incompréhension surtout. Elle ne comprend pas son histoire puisque cette histoire ne lui a jamais été racontée. Et tout d'un coup, à l'occasion de l'enterrement de la grand-mère, de cette urne que l'on transporte du funérarium jusqu'à Sainte-Livrade, elle comprend ce qu'a été le destin de sa grand-mère. Elle comprend ce qu'a été la vie de sa mère. Et tout d'un coup, par le corps, par la danse, par la musique, elle renoue avec ses racines.
Les yeux fermés, je m'abandonne à tout moi. Et l'on dirait que tout le long de moi vole qui je qu'elle lève. Quel bonheur de sentir mon cœur si près de ton cœur. Quel plaisir de palpiter au gré de ton désir.
Quand j'ai écrit Sous tes doigts, je voulais ne pas m'adresser uniquement aux personnes qui connaissaient la guerre d'Indochine et la décolonisation qui avait suivi. Je voulais aussi que ça puisse parler à des gens qui ont 18, 20 ans aujourd'hui et qui vivent en France et qui, dans ce pays qui pour moi est une société postcoloniale, et essayer d'expliquer certains silences, certaines survivances, certaines choses de notre histoire partagée et que je trouve assez peu illustrées dans le cinéma ou dans la littérature française.
Mmh.
Pour moi, Sous tes doigts est le prolongement du documentaire Le camp des oubliés. Dans Le camp des oubliés, il y avait des questions que je n'ai jamais osé poser aux femmes de la première génération. C'était tout ce qui concernait leur relation avec des hommes français pendant la guerre, avant leur arrivée en France. Et je n'avais pas osé poser ces questions aux femmes que je filmais en 2003. Et lorsque j'ai écrit le court-métrage d'animation, je me suis pas sentie autorisée à mettre des mots sur cette histoire qui n'était pas la mienne. Je n'avais pas leur version et donc je voulais que tout passe par le silence parce que elles aussi sont restées silencieuses. Et un des moyens d'exprimer les choses sans les dire, c'est de voir comment tout ça se transmet par le corps. L'idée, c'était qu'il y ait un lien par la danse entre les trois personnages et surtout un rapprochement entre la danse de la mer, cette danse rituelle qui, elle, perpétue la tradition vietnamienne, et la danse plus rageuse de la fille du hip-hop dans une danse finale qui est une forme de danse nouvelle, qui est la danse contemporaine en fait, et où elle, par les corps, leur corps se rapproche, elles dansent ensemble et toutes les deux arrivent à se rapprocher. Et leur corps bouge à l'unisson et les deux femmes réussissent à partager une histoire commune.
Sous tes doigts, court-métrage de l'animation de Marie-Christine Courtès, que nous avons la joie de découvrir ici à Clermont-Ferrand lors de cette séance cours d'histoire. Georges Bollon, alors vous qui étiez un peu sceptique sur la pertinence de montrer des films d'animation dans cette séance sur la guerre d'Indochine, finalement vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Non, c'est un très beau film et qui... D'abord, on n'échappe pas à l'histoire, quoi, en quelque sorte. Hein. Je veux dire, ça, c'est fondamental. Et c'est un film touchant, mais qui est aussi un film presque parfait du point de vue formel. C'est un film d'animation avec une très belle image, très esthétique, avec une bande-son qui est formidable. Je veux dire, là, on vient d'entendre la réalisatrice qui dit elle n'a pas voulu qu'il y ait une seule parole. Tout passe comme ça par l'image et par la bande-son qui est parfaite. Donc, pour moi, c'est un contrepoint. Effectivement, j'étais un peu sceptique au début, mais c'est un contrepoint absolu par rapport au premier document noir et blanc, le CPAD. Et quand je dis on n'échappe pas à l'histoire, eh bien, même quand ce n'est pas dit, ça bouge, ça se transforme et ça réapparaît.
C'est ça, ça réapparaît à travers cette fameuse troisième génération, puisque le personnage moteur qui permet finalement à cette histoire familiale secrète de se dénouer, c'est cette toute jeune fille qui se met un bonnet sur la tête, qui met des écouteurs aux oreilles et qui écoute son hip-hop.
Avec une belle étoile jaune sur son bonnet, hein, qui est quand même un rappel du drapeau vietnamien actuel. L'alliance avec la culture actuelle, le hip-hop, et puis la réappropriation de l'histoire beaucoup plus lointaine, ce mixte entre les deux, cette continuité aussi, pour moi, en font que c'est un très très beau film.
Et un film, Delphine Robic-Diaz, nominé pour les Césars, hein, dans la catégorie court-métrage d'animation. Est-ce que cette non-représentation de la guerre d'Indochine au cinéma va devenir justement visible à l'occasion de cette cérémonie des Césars?
Mais c'est en ça que le film de Marie-Christine Courtès est remarquable, c'est qu'il donne à entendre par le silence. Donc il est absolument remarquable de tout ce que le cinéma français a fait depuis un demi-siècle, mais en faisant sa plus grande force. C'est que le silence devient une manière de s'exprimer. Et donc ce film-là met en avant la manière extrêmement digne, extrêmement discrète, mais pour autant en faisant éclater le secret dont la guerre d'Indochine peut s'exprimer sur les écrans avec ses personnages de femmes, en plus ses personnages extrêmement atypiques, puisqu'on a l'habitude de voir la guerre représentée par des hommes. Là ici c'est la guerre dans sa dimension familiale, dans sa dimension familière, dans sa dimension
coutumière, physique, à travers le corps des femmes,
à travers le corps des femmes, oui.
Et à travers la danse, puisque finalement la boucle est bouclée. Sous tes doigts, c'est aussi le titre de cette chanson, de cette vieille chanson française sur laquelle ce Français séduit cette Indochinoise, qui est la grand-mère de la petite fille. C'est aussi la danse ensuite de la mère, danse rituelle, et puis danse de la fille, danse du hip-hop. Donc un film silencieux au sens où il n'y a pas de dialogue au sens propre du terme, mais un film sonore.
Oui, non parlant, mais sonore. Et voilà, et c'est là toute la grande force de ce film-là et qui le rend aussi émouvant. Parce que c'est vraiment un film dont on ressort avec les larmes aux yeux, parce qu'il y a quelque chose de magique qui passe par ce film sur la guerre d'Indochine. Et je pense que c'est un des meilleurs vecteurs de communication que cette troisième génération puisse avoir pour faire enfin entendre et reconnaître son histoire.
Et c'était un très beau moment de cette septième séance cours d'histoire ici à Clermont-Ferrand. Je peux vous dire qu'on était tous extrêmement émus. Merci Georges Bollon.
Merci.
Alors, est-ce que ça continue l'année prochaine?
Bien sûr. Cours d'histoire va continuer, oui.
Et nous serons là, avec plaisir.
Mais j'espère bien.
Delphine Robic-Dia, je vous laisse présenter votre livre aux éditions Pure.
Oui, merci. La guerre d'Indochine dans le cinéma français, image d'un trou de mémoire, puisqu'encore une fois, c'est là l'axe principal à mes yeux, c'est cette manière d'être présent par l'absence et de s'exprimer par le silence. Donc, image d'un trou de mémoire. La guerre d'Indochine dans le cinéma français, aux éditions Presse universitaire de Rennes.
Ainsi s'achève cette édition en collaboration avec la séance cours d'histoire du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Pour celles et ceux qui ont la chance d'être à Paris ce week-end, n'oubliez pas que le palmarès du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand est présenté au Forum des images. Retrouvez toutes nos infos sur la page de l'émission sur rfi.fr. Exprimez-vous, ne soyez pas silencieux, sur le Facebook de La Marche du Monde, podcastez cette émission, c'est la vôtre.